C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur Gérard Oury, 1919-2006. Cinéaste, français, juif, hétérosexuel. Œuvre Les Aventures de Rabbi Jacob, film 1973. Personnage Victor Pivert, interprété par Louis de Funès. Adaptation, une comédie musicale en 2008. L'une des plus plaisantes répliques du cinéma français est sans doute « Vous, Salomon, vous êtes juif ?» C'est la naïveté qui parle, la naïveté la plus bornée. Celui qui prononce la phrase est Victor Pivert, industriel raciste qui avait jusque-là pesté contre les Belges et les Noirs, et reste suffoqué quand son chauffeur Salomon lui dit être juif. Il n'est pourtant pas naïf en permanence, ce Pivert. Quand un autre personnage dit « On ne peut pas mentir éternellement au peuple », il répond « Mais si, on peut très bien ». C'est ce qu'il fait dans son usine. Vous me direz, la malveillance n'empêche pas la naïveté. On relevait à peine la misogynie en 1973, année du film Les Aventures de Rabbi Jacob, et encore moins l'homophobie, qui n'était même pas nommée puisque c'était un comportement admis. Mais misogyne et homophobe, Pivert doit l'être aussi. Il est une petite boule de vice non agissante. En tout cas, rien dans le film ne laisse penser qu'il ait commis des malveillances envers des Noirs ou des Juifs. Il est vicieux sans haine, ce qui ne veut d'ailleurs pas dire que c'est beaucoup plus excusable. Il l'est par préjugé. Ce préjugé vient de l'ignorance. Des Noirs, des Juifs, il en voit peu. Il ne veut pas les voir. Il ne sait pas comment ils peuvent être. C'est si simple pourtant. Des êtres humains, certains bons, d'autres méchants. Je dois préciser que je n'ai pas une grande admiration pour Louis de Funès, qui me semble avoir eu un talent grimacier auquel il a sans doute manqué un génie créateur qui lui aurait apporté un personnage type à la Charlot. Un grincheux, obséquieux, délateur et, ce qui est intéressant, du côté du pouvoir. Certains réalisateurs l'ont tiré vers cela, sans jamais pousser le personnage à son paroxysme, et c'est sans doute un défaut des aventures de Rabbi Jacob que la rédemption finale de Pivert et sa transformation pédagogique en gentil. La citrouillification posthume du divin Funès, pour reprendre l'expression de Sénèque à propos du médiocre empereur Claude qui avait été divinisé, me paraît caractéristique d'une France qui se rétrécit avec jouissance sur elle-même, ses petites frontières, sa petite identité, sa petite âme de concierge. Je m'empresse de dire que tout pays porte ce vice en lui. Voyez l'Angleterre depuis 3 ans. Outre un hommage à Louis de Funès à la Cinémathèque, nous avons récemment vu le président de la République rendre hommage à Pompidou. Dieu de la mesquinerie et de la digestion, quel idéal nous propose-t-on? Qui est Victor Pivert? Pour en parler, je reçois Jean-Michel Frodon, critique et historien du cinéma, professeur associé à Sciences Po. Jean-Michel Frodon, à quoi ressemble physiquement Victor Pivert?
Alors, Victor Pivert est un petit homme pâle, pas chauve, mais qui est bien dégarni déjà, très agité. C'est pas un être humain. C'est une sorte de figure de bande dessinée ou de dessin animé, comme Louis de Funès aura aimé en créer, en inventer. Il a cette espèce d'énergie tendue et malheureuse. C'est visiblement quelqu'un qui n'est jamais bien dans sa peau et bien dans la vie. Que ce soit comme patron où il se comporte mal avec tout le monde, il n'en tire pas de vrai plaisir, ni de vrai apaisement, ou dans son couple, où il est complètement soumis et manipulé par son épouse, et après dans la succession des événements qui vont lui advenir dans le cours du film, et où il est quand même pratiquement toujours, ce qui n'est pas si fréquent pour le personnage de Funès, en position de victime. Il subit les événements, et il subit y compris tout un tas d'avanies physiques.
Évidemment, son nom de famille est fait pour lui ressembler.
Évidemment, et il évoque même ce personnage qui était assez connu à ce moment-là de dessin animé, Woody Woodpecker, qu'il convoque d'ailleurs en frappant avec les doigts et en faisant cette espèce de bruit saccadé. Il en fait une sorte d'image de marque. Le personnage Pivert est très fier d'être Pivert.
Alors, pour le peu de personnes qui n'auraient pas vu ou qui ne connaîtraient pas l'histoire, il faut que vous me disiez ce qui arrive.
Pivert est pris dans une affaire tout à fait de manière involontaire et à son corps défendant, qui est intéressante. Et on oublie qu'il va devenir donc Rabbi Jacob, se usurper l'identité et l'apparence d'un rabbin hassidique. Mais ça n'arrive qu'au milieu du film. Toute la première moitié du film, il est Pivert, et Pivert qui est pris dans une affaire qui, à cette époque-là en particulier, était difficile à évoquer, notamment dans le cinéma très grand public, comme celui de Jaouri, qui est l'affaire Ben Barka. Encore aujourd'hui, on s'en souvient, mais à l'époque, c'est extrêmement présent dans les esprits, et donc la référence est claire. Et il y a
Mais alors, pardon de vous interrompre, pour être plus précis, il s'agit d'un véritable rabbin, le véritable Rabbi Jacob, qui quitte New York, qui est un rabbin hassidique, qui quitte New York pour aller retrouver sa famille à Paris. Et d'un autre côté...
C'est ça, il y a deux histoires qui se déroulent en parallèle. La venue à Paris du véritable Rabbi Jacob, pour venir assister et être la figure principale de la bar mitzvah de son neveu. Mm-hmm. Et d'un autre côté, les mésaventures, ce sont celles qui occupent l'essentiel de ce que nous voyons sur l'écran pendant la première moitié du film, de ce Pivert, accompagné pendant un certain temps de son chauffeur,
et qui a donc
Salomon,
un accident de voiture.
Et qui, ayant eu un accident de voiture, se réfugie dans un endroit où sont en train d'agir les sbires qui ont kidnappé ce leader révolutionnaire. Et après, Pivert et le leader en question sont en fuite et poursuivis. Il y a tout un tas de tribulations qui vont finir par amener...
Il y a une espèce d'entonnoir narratif qui se passe à Orly, où ils se retrouvent tous à Orly.
C'est cela.
Et donc, pour se protéger des terroristes arabes, si je puis dire, qui le poursuivent, Pivert et Slimane, qui est donc le révolutionnaire qui est poursuivi par les autres, prennent les habits du véritable Rabbi Jacob et de son assistant.
C'est cela.
Et après, ils vont dans le marais.
Et après, ils sont embarqués, suite à un quiproquo très classique dans la comédie, ils sont embarqués rue des Rosiers, dans...
Vraiment quartier, le quartier juif de Paris.
Quartier juif un peu iconique, en étant pris pour Rabbi Jacob et son assistant et un autre rabbin. Donc on a un français franchouillard, antisémite et raciste et tout ce qu'on veut, qui est déguisé en dignitaire juif et pris pour un dignitaire juif, et un leader révolutionnaire qu'on devine plus ou moins d'extrême gauche et athée arabe, qui est également pris pour un rabbin. Et ils sont tous les deux au milieu d'un certain nombre de pratiques présentées de manière à la fois affectueuse et folklorique de la communauté juive au moment de la célébration d'une cérémonie importante et qui est donc cette bar mitzvah.
Il y a deux scènes très amusant dans le barret. C'est d'abord Pivert qui arrive en voiture et qui salue les habitants du quartier d'après des noms de commerce qu'il voit. Et il y a un moment, il voit une affiche, racontez-moi si vous voyez ce que je veux dire.
Alors il y a deux quiproquos successifs, parce qu'il salue Rosenfeld, et parce qu'il voit écrit, et oui. Après il voit écrit Kacher, donc il salue les Kachers, et tout le monde croit que c'est une plaisanterie du rabbin. Et ensuite, il y a une publicité pour les jeans Levi's, et il salue les Levi's, et là, ça marche très bien, puisque des Levi's, il y en a dans l'assistance.
Et l'autre scène amusante est une scène de danse klezmer qui fait d'ailleurs comprendre probablement que les aventures de Rabbi Jacob est une sorte de film klezmer, ou disons de film à la Chagall où tout le monde est gentil et danse, quoi.
Oui, mais c'est un film qui joue sur des ressorts aussi optimistes, aussi joyeux, aussi toniques que possible, dans un contexte qui... y compris à ce moment-là, même si beaucoup de choses ont changé et les regards ont changé naturellement depuis 1973, est un contexte difficile, tendu, marqué par des tas de rapports sombres ou problématiques à tout un tas de niveaux. Le parti pris de Gérard Houry est de faire quelque chose, mais qui s'inscrit dans une longue tradition de l'humour juif, de gay, et de colorer sans entièrement faire disparaître ces dimensions sombres, même si elles n'occupent jamais le centre de l'écran.
En revanche, dans Le Marais, a lieu une scène plus importante, et peut-être, à mon sens, je ne sais pas ce que vous en pensez, la plus importante du film, c'est celle qui se passe à la synagogue. D'abord, elle introduit tant soit peu de gravité, mais surtout, cette scène, selon moi, a fait entrer des millions de Français qui n'avaient jamais vu ça auparavant dans une synagogue. Et ça, c'est une chose, au fond, qui a l'air toute naturelle, mais qui est, au fond, peut-être plus importante qu'il n'en a l'air.
Tout à fait, mais il y a cette idée de montrer comment se comportent des gens avec qui nous vivons, mais qu'éventuellement nous ne regardons pas, nous ne connaissons pas les habitudes et les mœurs. C'est de la bande dessinée. C'est fait avec, en grossissant souvent le trait, c'est fait avec, en simplifiant des situations. Mais néanmoins, les coiffures traditionnelles que portent en particulier les juifs traditionnalistes ou les phylactères, tous ces éléments qui sont aujourd'hui beaucoup plus visibles dans l'espace public qu'ils ne l'étaient à l'époque. L'affichage communautaire en France au début des années 70, si on n'allait pas dans les endroits où vivaient ces communautés-là, entre elles et en pratiquant ces usages, on ne la voyait jamais. Et on ne la voyait pas dans le cinéma français du tout.
Alors, il y a une chose assez frappante et dont je me demande si elle ne diminue pas un peu la portée du personnage de Pivert, c'est que dans la réplique que je citais au début, vous, Salomon, vous êtes juif, après avoir fait une sortie contre les Belges, contre les Noirs, contre les Juifs, le personnage de Pivert fait une sortie contre le chauffeur d'une voiture française en disant, eh ben, c'est ça les Français. Et ça, on doit comprendre qu'au fond, c'est un scrogneux qui râle contre tout. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que d'une certaine façon, ça diminue la portée de, si on peut dire, antiraciste que pouvait avoir le film?
Non, parce que je pense que ce personnage tout à fait passager et anecdotique, oui, du chauffeur français, il fait partie de ce que revendiquent les Français, d'être des râleurs qui, même si on leur dit, oh ben vous êtes formidables, vont quand même ne pas être contents. On est comme ça et on en est plutôt fiers et amusés. Je crois que ce personnage n'est pas un repoussoir du tout tel qu'il est traité dans le film.
Alors, à propos des noms, il y a une chose assez... Je ne sais pas si elle est frappante, mais on dit, et le film s'appelle Rabbi Jacob, et on ne dit pas rabbin, donc rabbi, c'est le mot américain, puisqu'il vient des États-Unis, le véritable Rabbi Jacob, et c'est une forme d'éloignement, ou est-ce que ça n'est pas une espèce de, plutôt de pittoresque? Car au fond, les juifs aussi, comme montre Oury dans ce film, sont des juifs, ou bien hassidiques, on l'a vu, comme celui qui part de New York, ou bien des petits commerçants du Marais avec un accent yiddish. En plus, à une époque où tout ça était très minoritaire et où la plupart des Français juifs étaient plutôt laïcs et pas du tout... Et de même, pour continuer, les Arabes sont un peu stéréotypés aussi, c'est-à-dire c'est des révolutionnaires ou des...
Alors, je pense que le traitement n'est pas le même. Du côté des Juifs, il y a une folklorisation de quelques traits saillants qui sont traités avec humour et affection par Oury, mais qui néanmoins... ne sont pas hostiles et ne sont pas y a rien de dégoûtant ou de déplaisant, alors que du côté des Arabes, il n'y a pas les Arabes, ceux qui vivent en France dans le film.
Non, il n'y a pas les ouvriers arabes,
par exemple.
Il n'y
a pas les ouvriers immigrés. Il y a une présence très importante et il n'y a pas non plus directement les traces de la guerre d'Algérie. On est juste 10 ans après les accords d'Évian.
Vous l'avez dit, il y a eu une petite allusion à l'affaire Ben Barka au début.
Oui, mais ça, c'est de la politique et c'est autre chose. C'est de la politique, c'est le tiers-mondisme marocain, etc. C'est très important et c'est pas neutre que...
Mais ça n'est pas l'arabe moyen des quartiers.
Mais ce ne sont pas les Arabes auxquels les Français ont affaire dans des circonstances complexes, et alors qu'est en train de se développer des formes nouvelles d'antiracisme en France face au sort des immigrés, des ouvriers immigrés, tout ça, c'est totalement évacué du film.
Est-ce que vous diriez que c'est un film d'archétype plutôt que de personnage ?
Oui, bien entendu. C'est un film qui revendique, qui joue sur ça. C'est un film, c'est comme des marionnettes.
Il y a une question que je me pose, c'est que moi, quand je vois ce film, je me dis ça aurait été bien intéressant que ça soit réalisé par un cinéaste italien de l'époque de la comédie italienne, avec un acteur comme Alberto Sordi qui, lui, quand il jouait des personnages, veulent y aller du début à la fin, et où ça aurait été probablement beaucoup plus sarcastique et fort, car je sais pas quoi, quelqu'un comme Scola Orisi n'aurait pas éprouvé le besoin de tempérer le propos, de le rendre un peu gentil par le côté conte que peut avoir, et d'autre part sympathique que peut avoir Rabbi Jacob.
Oui, oui, ça aurait été un autre film, on peut toujours dire. Il y avait d'autres films à faire. Moi, je crois qu'il y a une puissance déstabilisante et étrange qui est associée à l'être Louis de Funès, qui amène une folie.
Sûrement, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il est un peu assagi par Oury et Thompson, puisque, en particulier à la fin, quand tout s'arrange et qu'on arrive à Saint-Louis des Invalides, où il doit marier sa fille, et finalement, on arrive à un personnage encore plus odieux que lui, qui est joué par Jacques-François, qui est le père de celui qui doit épouser sa fille, et qui est un vieux con réactionnaire et fasciste. Et tout d'un coup, là, Funès devient un peu banal, gentil, etc. Et donc, il me semble que cette fin de scénario coupe un peu les ailes de folie et d'hystérie que pouvait avoir Funès, non ?
Moi, il me semble qu'on est dans le registre de la convention. Les comédies de Molière, à la fin, on reconnaît qui était le vrai fils et le gentil jeune homme épouse la jolie jeune fille. L'idée qu'on aurait laissé un espèce de Funès ivre de fureur contre la terre entière est contraire à ce qu'ils font. Donc, il me semble que les films ont une logique interne, une sorte de dynamique, c'est celle-là.
Nous allons entendre une chanson en yiddish, mais pas en yiddish folklorique comme on peut l'entendre dans les aventures de Rabbi Jacob, mais en yiddish vivant, si je puis dire. The Barry Sisters étaient dans les années 50 un duo de deux jeunes américaines d'origine russe qui ont chanté dans le style jazz du moment, en anglais mais aussi en yiddish, comme ici dans Shein Vidi Levon, La Lune Brille.
Shein vidi levone, lechtig vidi stern, fin himmel amatune, bis di mir zi geschick, mein Glück hab ich gewinnen, wenn ich hab dich gefunden, scheinst mit weisen Sinnen, o hast mein Herz verglick, deine zähnlich weiße Perlen mit deine schönen Augen, deine kinderlich, deine herrlich, hast mich zu gezeugen, schöne wie die Lebune, lächtig wie die Sterne, den Himmel am Atune.
Jean-Michel Frodon, le film Les Aventures de Rabbi Jacob, dont nous parlons en ce moment et à propos du personnage de Pivert, et quand on lit les articles à la sortie du film, tous les articles parlent d'antiracisme. Et j'ai trouvé une seule fois, d'ailleurs dans le Figaro, le mot d'antisémitisme. Et sauf erreur, on n'entend pas le mot une seule fois dans le film. On entend raciste, raciste, mais pas antisémite, ce qui est assez étrange.
Tout à fait, vous avez raison. Je crois que ça fait partie de l'édulcoration auquel procède le film. Antiraciste, à ce moment-là, ça va. En fait, tout le monde est supposé être d'accord chez les spectateurs avec cette idée qui est aussi dans les critiques à l'époque que il y a pas d'antisémite en France.
Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Et que donc...
C'est même pas la peine d'en parler.
C'est pas la peine d'en parler. Et que ce à quoi s'en prend le film, c'est un antiracisme en général, qui donc, d'une certaine manière, fait que le film serait aussi pour défendre les Arabes, les Noirs, etc., puisqu'il s'agit de combattre le racisme dans un sens large, en esquivant le fait que, bien évidemment, il y avait des antisémites en France aussi à cette époque-là. Nous avons vu depuis qu'ils n'ont fait que croître et prospérer.
Mais en même temps, il n'en reste pas moins que Pivert l'est antisémite. Et que ce qui est amusant, c'est que personne à un moment lui dit tuer. Ou il pourrait même lui dire, il dit je suis raciste. Mmh. Il l'avoue, il pourrait dire aussi je suis antisémite, il ne le dit pas.
Non, mais je crois qu'à ce moment-là, il ne se vit pas comme tel. Mmh. Et que antisémite, à ce moment-là, ça veut dire... ça s'inscrit dans la référence à la Deuxième Guerre mondiale. Et que rien n'indique particulièrement que Pivert... on peut très bien supposer qu'il aurait été vichiste sous l'occupation. Ça, c'est même compris, si on peut dire, dans les sous-entendus. Mais il est devenu anti-vichiste et gaulliste tout aussi naturellement à la Libération, parce qu'il est dans une espèce de suivisme dans les choix d'une France très moyenne et sans beaucoup d'exigences, et qu'il y a cette idée que à ce moment-là, très clairement, se déclarer antisémite serait beaucoup plus radical, ouais, si on peut dire, ouais, que se déclarer raciste.
Alors en même temps, là je spécule, mais après tout, pourquoi pas, c'est le film aussi est réalisé par deux juifs laïcs, Daniel Thompson et Gérard Oury, et puis c'est 73, c'est l'époque où encore il restait des survivants de la Shoah, c'est-à-dire des gens qui voulaient pas du tout entendre parler de ça. Donc est-ce qu'il peut pas entrer là-dedans, dans cette espèce de non-dit, quelque chose d'une perpille, puisqu'on sait qu'il a fallu la deuxième génération et plutôt les années 80 pour que ça revienne sur le...
Enfin, les gens, y compris dans les survivants, voulaient éventuellement en parler, car eux savaient que l'antisémitisme n'avait pas disparu. Ensuite, il y a eu la guerre des six jours, et donc il y a eu des... convoqué en 67, hein, donc on est 6 ans après, ouais. des convocations de références de part et d'autre, d'ailleurs, qui ont ramené sur le tapis, si j'ose dire, ces références-là. La LICRA, elle existe.
Elle existe depuis 1927.
Voilà, ouais. et elle a, en fait, elle a ajouté le R sur le racisme, au A qui était contre l'antisémitisme.
À quelle époque?
Je sais pas. Mais à l'origine, ça s'appelle la LICA.
Jean-Michel Frodon, dans un très intéressant article dans Libération à la sortie du film, Pascal Bonitzer reproche à Oury quelque chose qu'on fait beaucoup maintenant, mais qui était rare à l'époque, c'est-à-dire d'avoir fait interpréter le rôle de Slimane par un Français. C'est un peu de la pré-anti-appropriation culturelle. Et d'ailleurs, c'est pas très logique, parce que si Salomon, le chauffeur juif, est joué par Henri Guibet, qui n'est pas juif, d'autre part, Rabbi Jacob, qui est un juif, est joué par un juif, et tout ça n'a pas beaucoup d'importance relativement à la comédie, non ?
Oui et non. Il me semble que il y a une différence. Pour moi, elle n'est pas forcément facile à expliciter, mais le fait d'avoir conscience très immédiatement et très intuitivement que, en particulier celui qui joue Slimane, celui qui joue Fares, l'ennemi de Slimane, est italien et n'est pas plus arabe que Giraud, l'acteur qui joue Slimane, aplatit le film.
Qui
ne soit pas arabe.
Ah oui.
Pour moi, et s'il y a une curiosité, c'est qu'il y a un article dans François au moment où Oury prépare le film, où ils disent ils sont en train de chercher un bel arabe séduisant. Et visiblement, ils l'ont pas trouvé. Et il y a quand même cette absence de corps arabes, de visages arabes, de rapport à la voix, à l'accent venu du Maghreb. C'est la question maghrébine plus que arabe au sens général, absolument dans le film. C'est-à-dire qu'il y a vraiment rien d'arabe dans le film, alors qu'il y a quand même beaucoup de choses qui viennent du monde juif, même tordues, stylisées, parfois caricaturées, etc. Pour moi, fait partie du déséquilibre entre la relation à ce qui concerne le monde arabe et ce qui concerne le monde juif au sein du film. Peut-être qu'il aurait fallu qu'il y ait un arabe qui joue le général français dans le film, et qu'à ce moment-là, on aurait eu d'autres formes de jeu ou d'étrangeté introduites dans le film qui auraient ramené cette question.
On aurait pu avoir un asiatique jouant un juif, ça existe, il y a des juifs asiatiques, ça aurait été très bien. Ouais. Les aventures de Rabbi Jacob est évidemment un film de l'époque de la tolérance. Je me demande si il est peut-être pas même le point de départ d'une période de la fiction qui a cette intention-là, où on trouve évidemment bien plus tard sur le même motif le film La vérité si je mens, et qui peut-être se serait arrêté avec la série politique Borgen qui s'est achevée en 2013, qui était sur ce même principe tolérante, inclusive et humaniste. Et je me demande si on n'est pas passé à un monde fictif complètement différent, avec des fictions racistes, misogynes et homophobes, comme les romans de Maurice Dantec, Houellebecq ou Le Péplum 300, qui sont tout d'un coup dans la culture populaire des choses qui sont absolument le contraire de que toute cette tendance nous a montré. Ou je me trompe ?
Bon, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu repose sur exactement les mêmes ressorts que Rabbi Jacob. C'est un couple de bourgeois français avec un château en Touraine et je sais pas quoi, qui a trois filles dont l'une va épouser un arabe, l'une va épouser un juif et la troisième va épouser un noir. Ce sont des films qui sont faits plutôt par des gens... sont pas progressistes et qui néanmoins bricolent avec ces questions-là d'une manière pas vraiment assignable, me semble-t-il. Et quiconque prétendra dire non mais en fait tout ça c'est raciste, même si ça a l'air d'être moral à la fin, ou qui dira au contraire c'est antiraciste, s'avancera trop loin, ça active ces questions-là dans un environnement que nous connaissons et qui est dangereux et qui est celui de la montée des racismes et de l'antisémitisme, qui est le temps que nous vivons, d'une manière qui les problématise plutôt que de les régler dans aucun sens.
Donc en fait, quelle que soit la période, ça voudrait dire qu'il y a, dans le cinéma en particulier, une tendance très longue et qui est, qu'on pourrait dire, qui est la continuation de Frank Capra. Dans le sens des films un peu iréniques, d'ailleurs très bien faits, et qui proposent une idée irénique de la vie.
Mais Frank Capra avait une idée politique de la société. Et il y avait un horizon qui est celui de la démocratie américaine, très spécifiquement, qui n'est pas exactement la même que la nôtre, même si on peut s'y reconnaître et y trouver bien des vertus, et qui était ce vers quoi tendaient les situations dramatiques de tous les grands films de Capra, de tous les grands films à sujet, disons, politique et de société, et que cette... alors que là, on est plutôt d'abord dans des formes plus extrême de typage des personnages qui stylisent et du coup aussi nous laissent plus d'espace, plus de distance. C'est pas nous quand même.
En fait, on c'est du théâtre de marionnettes.
Ça. C'est du théâtre de marionnettes. C'est important, le théâtre de marionnettes, et ça fait des choses dans la société, mais par des voies plus différentes. Les fictions de Capra, qui sont bien évidemment des fictions, sont beaucoup plus proches du réalisme, d'une certaine manière, que ce qu'aura fait le cinéma français grand public avec en particulier ces questions-là.
Jean-Michel Frodon, que vous a appris le personnage de Victor Pivert ?
Le personnage de Victor Pivert, il nous a montré comment convoquer des figures qui viennent plutôt du théâtre que du cinéma. C'est Sganarelle, c'est quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, on sait que ils auront fini De Funès et Houri par aller explicitement chez Molière, après avoir en fait énormément pioché dans ce vivier-là, en le transposant dans un certain nombre de leurs films, mais qui aide à mobiliser malgré tout un rapport à la fois attentif aux questions des communautés et de nos regards sur les communautés dans la société où on est, en le faisant sur un mode qui ne le dramatise pas, mais qui dit, mais essayons de parler de ça et de sourire de ça, sans rapporter du tragique à des situations qui renvoient à des tragédies passées et actuelles.
C'était Personnage en personne. La semaine prochaine, je parlerai des personnages des femmes de Toulouse-Lautrec.
Comme si j'étais assis là-haut, paradis.
Réalisation Clotilde Pivin, attachée de production Meryl Moneghetti, prise de son Olivier Dupré.
De ma vie, le paradis.
Dans un instant, Victor Massé de l'Épinay et le rayon BD.
C'était un grand jeudi. Tous les jours, paradis. De l'autre côté de la rue, mon paradis perdu. Soudain, quel est ce rayon éblouissant, élu parmi ces milliers de paradis. qui ne savent pas. Elle